France Musique. Carrefour des Amériques, Marcel Quillé-Véré.
Le Brésil, la musique et le monde, 37e chapitre, le long chemin vers la liberté. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans nos périples brésiliens. En 1973, les choses commencent enfin à changer au sein des militaires au pouvoir. La ligne dure du général Medici, les exactions graves, les disparitions, les tortures et les crimes qui ont été commis ont causé un grave préjudice à l'armée. C'est alors le président du consortium Petrobras, le général Ernesto Geisel, qui lui succède et qui prend ses fonctions l'année suivante. Geisel sait qu'il n'y a d'autre issue possible qu'une libéralisation progressive du régime, ce qui va permettre à l'opposition de se réorganiser peu à peu. Autre signe de changement, Geisel reconnaît dès le mois d'avril la révolution des œillets au Portugal. Ces années-là, c'est toute une époque de la culture brésilienne qui s'en va. Le Brésil pleure ses grands artistes, la peintre Tarsila de Amaral, à qui le musée d'art moderne de Rio consacre aussitôt une exposition, les poètes Torquato Neto, Murilo Mendes, qui ont beaucoup souffert de l'exil, les écrivains Érico Veríssimo, Clarice Lispector, et les chanteuses populaires Maïssa et Dalva de Oliveira. Dalva a succombé à un cancer et une foule innombrable assiste à ses obsèques. Quant au poète essentiel de la bossa nova, Vinícius de Moraes, rongé par l'alcool, il est hospitalisé régulièrement à la fin des années 1970 et décède en 1980. Sa voix s'est tue et les années bossa nova semblent soudain bien lointaines. Tom Jobim le rejoindra en 1994 et João Gilberto en 2019. On l'entend ici en concert avec les chanteuses du Quarteto Ainsi.
Ah, que linda namorada, você poderia ser, se quiser ser somente minha, exatamente esta coisinha, esta coisa toda minha, que ninguém mais pode ser. Você tem que me fazer um juramento de só ter um pensamento, ser só minha até morrer. E também de não perder esse jeitinho de falar devagarinho essas histórias de você. E de repente me fazer muito carinho e chorar bem de mansinho, sem ninguém saber porquê.
E se mais do que namorada, você quer ser minha amada, mais amada pra valer, aquela amada pelo amor predestinada, sem a qual a vida é nada, sem a qual se quer morrer. Você tem que vir comigo em meu caminho, e talvez o meu caminho seja triste pra você. Os seus olhos têm que só dos meus olhos e os seus braços, o meu ninho no silêncio de depois. E você tem que ser a estrela derradeira, minha amiga e companheira no infinito de nós dois.
La voix de Vinicius de Moraes avec le quartet ou ainsi. Et puis, il y a deux des plus grands artistes noirs de tous les temps au Brésil qui nous quittent. En 1974, Ernesto dos Santos, dit Donga, le pionnier de la samba, s'éteint à Rio. C'est juste après le décès de son ami, le flûtiste et saxophoniste Pixinguinha. Le 1er février, dans l'après-midi, alors qu'il assiste à un baptême dans l'église de Nossa Senhora da Paz, Pixinguinha s'écroule, victime d'un malaise cardiaque. Des milliers de personnes suivent le cortège funèbre en chantant sa chanson Carinhoso. Un de ses derniers enregistrements date de 1968. Il est au saxophone avec le clarinettiste Abel Ferreira et la chanteuse Elisete Cardoso. Regarde mon frère, il y a combien de gens de par le monde qui vivent sans savoir que ce qui est bon dans la vie et la seule chose qui vaille la peine, c'est l'amour. L'amour avec toute la poésie qui l'accompagne.
Olha, meu irmão, quanta gente existe aí, espalhada pelo mundo sem saber que o bom da vida quem dá é o amor. Isso de existir passa a ter razão. Essa gente aí nunca vai saber da paz que só num grande amor se tem, de poder contar com a presença irmã de uma bem-amada que se quer. E quando essa amiga chega de mansinho, as flores vão juntar-se aos passarinhos pra dizer que bom ter chegado, como vai passando. E ela vai andando sem se aperceber. Olha, meu irmão, isso é que é viver contando com a poesia ao seu lado. Nos olhos da amada, ver aquela estrela que perdeu-se pela madrugada. Vai sofrer, vai chorar, esse que passou na vida sem amar. Meu irmão, veja bem, mesmo pra sofrer, eu acho que é melhor. Mesmo pra sofrer,
entre-temps, le pianiste de jazz Luis Essa, compagnon de route de la bossa nova de Tom Jobim, d'Edu Lobo, est souvent aux États-Unis où il travaille avec le saxophoniste Stan Getz. Il compose en même temps des petites pièces de concert, à la manière d'un Francis Poulenc tropical, qu'un grand pianiste comme Roberto Zidone a mis à son répertoire dans les années 70, comme ici sa Melancolia.
Thank you.
En 1972, Milton Nascimento, autre grande figure noire de la musique populaire brésilienne, compose à l'âge de 30 ans l'une de ses plus belles chansons, qui sera d'ailleurs interprétée par beaucoup d'artistes américains. Nada será como antes amanhã. Demain, rien ne sera plus comme avant. Encore un texte plein de sous-entendus en période de dictature. 4 ans plus tard, il est aux États-Unis et il l'enregistre en anglais. Mais c'est surtout la chanteuse de jazz Sarah Vaughan qui la fera connaître en Amérique du Nord. Nothing will be as it was. J'ai repris la route à nouveau pour te voir, avec dans les cheveux les parfums de l'aurore, car je sais que demain, rien ne sera plus comme avant. Au Brésil, c'est Elis Regina qui l'a mise à son répertoire. Elle précède ici Sarah Vaughan.
Sei que nada será como antes amanhã. Que notícias me dão dois amigos? Que notícias me dão de você? Sei que nada será como está amanhã ou depois de amanhã. Resistindo na boca da noite um gosto de sol. Num será como antes amanhã. Que notícias me dão dois amigos? Que notícias me dão de você? Sei que nada será como está amanhã ou depois de amanhã. Resistindo na boca da noite um gosto de sol.
Got my feet on the road just to see you. My hair got a taste of the dawn. I knew nothing would be as it was tomorrow. Tell me when will I hear from my people? Tell me when will I hear from my friends? Bleeding fine deep down in my heart. No one ever can treat us apart.
Au Brésil, le pianiste Arnaldo Rebelo, qui a fêté ses 60 ans, se consacre à l'enseignement et compose de plus en plus, tout en faisant d'importantes tournées à travers le pays pour faire mieux connaître la musique des compositeurs nationaux. Il était né en 1905 dans la ville de Manaus, en Amazonie, et avait étudié le piano avec Robert Casazu à Paris en 1930 et en 1931. Il a composé plus de 100 mélodies qui restent encore à découvrir. Et dans ses récitals, il interprète aussi ses propres compositions, dans lesquelles il évoque sa région natale. Comme ici, le lundu du Tio Joca. Le lundu, souvent mélancolique, cette danse afro-brésilienne ancêtre de la samba, qui était très populaire au sein des populations noires de l'île de Marajó à l'embouchure du fleuve Amazone.
Thank you.
Arnaldo Rebelo dans une de ses œuvres amazoniennes afro-brésiliennes. Et nous sommes à nouveau dans le Brésil noir, puisque nous partons à Bahia, où en 1974 débute le premier Festival des Arts, un événement organisé par le compositeur Ernst Widmer, qui aura lieu tous les ans jusqu'en 1982. Il s'agit d'animer enfin culturellement la ville, de l'ouvrir à de nouveaux horizons, notamment des horizons musicaux, en créant de nouvelles partitions. Suivront à partir de 1986 les semaines de musique contemporaine de Bahia. Dans les années 1970, Widmer compose son Catiti Lua Nova, enregistré ici à Genève sous sa direction en 1980. Chez les Indiens Tupayusu en Amazonie, Catiti était la déesse de la nouvelle lune et une des auxiliaires de Ruda, le dieu de l'amour. Son apparition donnait lieu à des rituels et de grandes fêtes, en particulier dans la forêt vierge, autour de la ville de Santarém, sur le fleuve Amazone. Sonia Steinhammer, soprano, le Collegium Academicum de Genève, dirigé par Ernst Widmer. En 1973, Tom Jobim va souvent se ressourcer loin de Rio dans une petite maison en pleine campagne. Totalement envoûté par l'œuvre de l'écrivain Guimarães Rosa, il se passionne pour le récit « Le Duel » de son recueil de nouvelles Sagarana. Comme l'écrivain et comme son maître Villa-Lobos, Tom est fasciné par la nature, où il découvre la variété incroyable d'oiseaux, comme le Matita Perret, au chant si particulier. Matita Perret se réfère sans doute au Sassi Perere, ou au Matinta Perret, qui est une créature fantastique des légendes amérindiennes qui se transforme tout le temps, et notamment en oiseau. Le récit de Guimarães Rosa raconte la poursuite d'un assassin par un jeune homme dans le sertão du Minas Gerais. Ce jeune homme meurt d'épuisement, il lègue son pécule à un paysan dans le besoin qui achèvera la tâche de son bienfaiteur en abattant João, l'assassin. C'est ainsi qu'est né le Matita Pere de Tom Jobim pour chant et orchestre sur un texte qui évoque la poursuite du duel. Guimarães Rosa, dira-t-il, est présent dans mon œuvre, et Matita Pere est très Guimarães Rosa. Or, il se trouve que cette même année, un film est en tournage d'après ce récit. On propose à Tom Jobim d'en écrire la musique. Matita Pere tombe à point nommé et son arrangeur brésilien l'orchestre pour le film, alors que lui-même s'envole vers New York où son fidèle Klaus Ogerman l'adapte pour un grand orchestre symphonique. João a fui là où on ne le trouvera pas, par toutes sortes de chemins maudits. Lui qui cherchait la vie, il n'a trouvé que la mort.
Recebendo aviso em todo o caminho, de norte a oeste, da norte a norte, lá vem a vida de adiadas mortes, um estranho chamado João. O clarão das águas, no deserto negro, a perder mais nada, corajoso medo lá, quero ver você. Os sete caminhos, setenta sortes, setecentas vidas e sete mil mortes, esse um João. Deu dia claro, e deu noite escura, e deu meia-noite no coração. Oh, lerê, quero ver. Oh, lerê. No caminho velho, onde a lama trava, lá no todo fim é bom. Se acabou, João. No deserto negro lá, quero ver você, Lara. Você me pegar.
Le chanteur Milton Nascimento, enregistré ici sur le vif lors d'un concert avec l'Orchestre symphonique de São Paulo, dirigé par Roberto Minchuk. En cette année 1974, à Bahia, un autre professeur de l'école de musique de l'université fait de plus en plus parler de lui. Il s'agit de Walter Szmetak. Né en 1913 à Zurich de parents tchèques, désespéré par la montée des fascismes en Europe, Szmetak décide de s'exiler au Brésil en 1937, engagé comme violoncelliste dans l'orchestre de Porto Alegre, dans le sud du pays. 20 ans plus tard, Joachim Kollreuter le fait venir à l'école de musique qu'il a fondée à Bahia et lui installe un atelier dans les sous-sols pour ses recherches sur les instruments populaires et l'électroacoustique. Szmetak y donne des cours, il confectionne des instruments de toutes sortes, de véritables œuvres d'art, qui sont à la fois des sculptures et des instruments de musique. Il les intègre dans des compositions qui sont enregistrées sur deux micro-sillons montés et produits en 1980 par deux de ses élèves, et pas des moindres, Caetano Veloso et Gilberto Gil. À sa mort, le 30 mai 1984, il laisse un cabinet fantastique où s'entassent ses instruments. Puis l'oubli s'est installé jusqu'à une exposition de certains d'entre eux à Berlin en 1982. Ils sont alors enfin restaurés et une magnifique exposition à São Paulo e à Bahia au musée d'art moderne leur ont redonné vie en novembre 2007. Dans le Damson, extrait du disque, on se demande si Gilberto Gil et Caetano Veloso jouent aussi de certains de ces étranges instruments que nous entendons.
Carrefour des Amériques, une série de Marcel Quilliveré pour les médias francophones publics.
L'année 1975, le compositeur Edino Krieg est nommé à la tête de la Fondation des Théâtres de Rio et dirige la section musique du Journal du Brésil. Il crée surtout sa collection d'enregistrements d'œuvres classiques brésiliennes pour la Fondation d'État pour la Culture. Quant à Joachim Kollreuter, l'apôtre du dodécaphonisme au Brésil, il est de retour après de longs séjours en Allemagne, en Inde, au Japon et en Corée. Son fils raconte qu'il continue alors à composer des musiques qui semblent toujours aussi hermétiques à son entourage, notamment à son épouse, Jenny Marcondes, qui compose et fait des arrangements pour des comédies musicales ou des pièces de théâtre. C'est à Marlos Nobre qu'on doit alors la composition la plus emblématique de cette période. Son père vient de décéder et il compose en sa mémoire une œuvre tragique qu'il a intitulée In Memoriam. Une époque au Brésil où la répression est très dure, la censure est réactivée de forte manière, des livres sont interdits et une telenovela, une série télévisée de la chaîne Globo, est retirée de l'antenne au dernier moment. Enfin, en octobre, le journaliste Vladimir Herzog meurt dans les locaux de la police de São Paulo. Thèse officielle, le suicide. Une cérémonie écuménique a lieu avec l'évêque, le rabbin et un pasteur dans la cathédrale pleine à craquer. Près d'un million de personnes y ont assisté, dont la plupart sur la place et dans les rues adjacentes.
Thank you.
Isaac Karpczewski à la tête de l'Orchestre symphonique du Brésil dans le dernier mouvement de In Memoriam de Marlos Nobre. C'est dans cette ambiance bien tragique que la musique lumineuse du baroque français arrive à São Paulo. Et cela grâce à la grande claveciniste française Huguette Dreyfus, qui vient donner des cours aux clavecinistes du pays, au musée d'art de la ville. Ceux-ci disent encore aujourd'hui qu'il y a eu un avant et un après Huguette Dreyfus au Brésil. On écoute Rosana Lanzelotti.
On a compris que ce serait bien de faire venir quelqu'un qui pourrait un peu lancer les bases dans l'enseignement du clavecin. Je prenais à ce moment-là des cours avec Elena Jank, qui était l'élève de Karl Richter en Allemagne. Donc, avec Walter Lorenzão, un chef d'orchestre de São Paulo, ils ont eu l'idée de faire venir quelqu'un dont la tradition dans la musique baroque française était tellement établie, comme celle d'Huguette. Et ils l'ont invité pour faire des cours au MASP de São Paulo, pour lesquels ils font venir quelques claviecinistes. Et ce qui a après engendré le fait que quelques-uns d'entre eux sont venus en France pour continuer ses études auprès d'Huguette. Il inclut Elena Jank et Hilton Wioniski, aussi un de ses grands élèves qui est maintenant basé en France et qui enseigne lui-même.
Huguette Dreyfus au clavecin, La Zénobie, pièce de clavecin livre 2, 11e ordre en ut mineur de François Couperin. Huguette Dreyfus qui nous a quittés en mai 2016. La claveciniste brésilienne Rosana Lanzelotti.
Walter Lorenzão, il a compris aussi que pour le clavecin revive pleinement, il fallait qu'il y ait des compositeurs brésiliens qui écrivent pour l'instrument. Et donc, à l'occasion de la venue d'Huguette, ils ont invité Osvaldo Lacerda, un grand compositeur qui est décédé maintenant, à écrire une pièce pour clavecin solo. Sa sonate, il a écrit pour cette venue d'Huguette au Brésil. Et à partir de là, il y a pas mal de compositeurs qui se sont intéressés au clavecin.
Thank you.
Rosanna Lanzelotti interprétait ici le troisième mouvement de la sonate pour clavecin de Osvaldo Lacerda. Parmi les compositeurs qu'Huguette Dreyfus a inspirés à São Paulo, il y avait aussi José de Almeida Prado, qui était un élève d'Osvaldo Lacerda et de Camargo Guarnieri. Il allait aussi composer pour le clavecin. Paris, où il a vécu, va lui inspirer les Ilias, les îles, suivies de toute une série de cartes celestis, des cartes ou des lettres célestes. Manuel Correa do Lago de l'Académie brésilienne de musique nous raconte la trajectoire d'Almeida Prado.
Son plan est d'aller travailler avec Messiaen à Paris. Il n'entre pas au conservatoire, il ne passe pas à l'examen du conservatoire, mais Messiaen l'invite à être auditeur libre. Mais Luizetto Correa de Azevedo, ce grand musicologue brésilien donc, qui était à l'UNESCO depuis sa fondation, grand ami de Villa-Lobos, profond connaisseur de toute la musique brésilienne et des compositeurs brésiliens, était également très lié à Nadia Boulanger. Et il suggère à Almeida Prado d'aller travailler avec Boulanger, ce qui va devenir un rapport de grand amour et de grand échange. Et c'est là, avec Boulanger, qu'il commence à écrire Ilias au piano, qui sont à l'origine des cartes célestes. C'était un catholique d'un mysticisme très, très intense, très sensuel en même temps. Ces cartes célestes, en fait, c'est des lettres dans le sens ancien des cartes anciennes.
Une des cartes célestes numéro 12 par la pianiste Sonia Rubinsky, à qui elles sont dédiées par Almeida Prado. Elle nous en parle.
Cette idée du cosmos et des étoiles, c'est très lié à la fois à une liaison très forte avec la nature, mais aussi avec une idée de transcendance de la nature vers une spiritualité cosmique. Et c'est pour ça l'idée d'étoile. Comme il dit que le piano est l'instrument idéal pour faire cette transcendance avec les pédales, il utilise beaucoup de pédales, avec beaucoup de trémolos, beaucoup de trilles, les pianos deviennent beaucoup plus grands qu'il en est. Aussi, il a un lyrisme qui est très, 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 très beau. Il adorait Villa-Lobos et je pense que cette notion d'abondance qu'il y a dans Villa-Lobos, que pour Villa-Lobos, c'est comme si c'était un miroir du Brésil qui est abondant. Quand on arrive au Brésil, la nature est abondante. Et Villa-Lobos a mis ça dans sa musique. C'est grand. Et je pense qu'Almeida Prado, comme personne, il était, on peut dire qu'une personne est superlative. Il était superlatif, tout était exubérant, énorme, avec une énorme émotion.
Sonia Rubinsky interprétait ici une carte céleste de la série numéro 12 d'Almeida Prado. En 1975, la chanteuse brésilienne Clara Nunes est au sommet de sa carrière depuis qu'elle interprète des thèmes afro-brésiliens et son chant des trois races dépasse les 100 000 disques vendus. Les trois races brésiliennes, leitmotiv brésilien s'il en est, l'Indien spolié, l'Africain asservi et l'Européen déraciné. Clara Nunes évoque le martyr des esclaves fugitifs assassinés à Palmares. Clara Nunes est morte très jeune. Elle donne à la samba ce caractère triste qui est souvent le sien, celui qu'aimait l'écrivain Mario de Andrade. Quand il écrivait en 1939 « Je n'oublierai jamais cette nuit à Rio de Janeiro quand j'ai vu descendre du Morro une admirable école de samba qui chantait. Le ciel était haut, la nuit semblait épuisée de tant de chaleur et c'était un docker noir qui interprétait les solos. Tous descendaient en entonnant leur mélodie de tristesse violente et nette qui vous fendait le cœur. »
Um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos palmares, onde se refugiou. Ora a luta dos encontros confidentes pela quebra das correntes. Nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor.
L'année 1976 est encore une année bien dure au Brésil. Et le général Geisel contrôle mal les forces de répression. Après le prétendu suicide d'un syndicaliste, c'est l'Église qui est de plus en plus attaquée. Un évêque est séquestré et torturé. Sa voiture explose en pleine rue. Un prêtre tué par la police militaire. Geisel limoge alors un de ses généraux de la ligne dure. Le 6 mai, la mort en son exil argentin de l'ex-président João Goulart, Jean Gou comme on l'appelait, est un choc. Et le 22 août, le décès de Juscelino Kubitschek dans un accident de voiture semble être un coup monté. Il était rentré clandestinement au Brésil pour rendre visite à sa chère ville de Brasilia. C'est en rentrant le soir sur l'autoroute qu'a lieu la catastrophe dans laquelle Kubitschek et son chauffeur perdent la vie. Son corps est ramené à Brasilia et c'est une foule immense qui accompagne sa dépouille à la cathédrale. Les hommes se sont même emparés de son cercueil pour le porter à bout de bras. Et au cimetière, la foule est restée jusque tard dans la nuit. Une grande manifestation populaire pour la démocratie.
Thank you.
C'était Fragmentus, une œuvre de la compositrice Marisa Rezende qui étudiait dans les années 1970 aux États-Unis. Tobias Folkman était à la tête de l'Orchestre national brésilien. On se retrouve bien sûr dans le prochain épisode de Carrefour des Amériques, une émission des médias francophones publics réalisée par Béatrice Trichet, à la technique Pierre Monteil, attaché de production Nelly Portal. On peut bien sûr écouter ou réécouter cette émission en podcast.
À réécouter sur francemusique.fr.